Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Un samedi après-midi à 15h, ce n'est pas un horaire habituel, on va dire, pour les conférences données dans le cadre de la librairie Mola pour les auteurs. Enfin, c'est très prometteur et intéressant de vous avoir ici à la librairie, cher José Bové. Je veux dire d'abord parce que vous revenez non pas le théâtre de votre enfance, mais enfin, vous êtes né pas très loin, hein, à Talence. Tout à l'heure même, je vous posais une question très, très personnelle pour savoir si c'était à la clinique Bagatelle ou à la clinique Codérès, hein. Alors, vous allez présenter un livre. On va évoquer ensemble un livre tout à fait passionnant que vous venez de publier à la Découverte, Hold Up à Bruxelles, les lobbies au pluriel, hein, au cœur de l'Europe. Avec une préface de Daniel Cohn-Bendit, c'est presque un livre, on dirait, de la collection Le Masque. Hein. L'éditeur a joué sur les couleurs noir et jaune, mais c'est parce que c'est pas un roman policier, c'est une succession presque d'enquêtes policières, hein, où vous nous faites vivre, mais de manière extrêmement précise et documentée et passionnante, avec la collaboration de Monsieur Luneau, hein, qui est co-auteur avec vous, hein, qui est journaliste avec un Gilles Luneau, avec un site internet bien connu sur les questions, entre autres, d'écologie européenne. Et alors, vous racontez toute une série j'allais dire, d'affaires que vous avez rencontrées. Alors, ça parle des biotechnologies, ça parle du lobby du tabac, de la PAC, la politique agricole commune sous influence, des insecticides, la bataille du gaz de schiste, un détour tout à fait remarquable et peu connu, évidemment, par rapport au Maroc, hein, et tout ce qu'on appelle, parce qu'on appelait jadis les pays tiers méditerranéens, hein, par rapport à l'Europe. Et puis, bien sûr, on retrouve aussi vos combats par rapport à l'OMC. Alors, d'une certaine façon, c'est votre expérience, premier mandat de parlementaire européen que vous nous livrez. Et c'est agrémenté, si je puis dire, en tous les cas, c'est conclu par un très utile vade-mecum, d'une certaine façon, hein, non pas du labyrinthe européen, mais de cette complexité quand même technique, hein, qui consiste pour les textes, hein, par où ça passe, la multiplication des organismes. Et on découvre d'ailleurs, en vous lisant, des organismes qui sont peu connus du grand public. On y reviendra, en particulier le fameux COREPER, Comité des représentants permanents à Bruxelles, qui sont les ambassadeurs qui représentent les États membres. Et puis également aussi des personnages comme cette secrétaire générale de la Commission, Madame Catherine Day. Hein. Day, c'est quoi? C'est une Britannique? C'est quoi? C'est quoi sa
C'est
nationalité?
Une Irlandaise.
Une Irlandaise. Voilà. Donc, je voudrais peut-être, après avoir vivement recommandé la lecture de votre livre, je voudrais commencer par une préface, la préface de Daniel Cohn-Bendit. C'est un petit texte d'une page et demie. Souvent, dans les livres, les préfaces sont absolument éclairantes. Alors, on en connaît des prestigieuses, hein, celle de Jean-Paul Sartre en préface d'Anne d'Arabie de Paul Nizan, elle a passé à la postérité. Là, c'est pas l'objet de ce petit texte, mais il commence comme ça, Daniel Cohn-Bendit, il dit: José, vous, mon meilleur ennemi, entre guillemets, sur le traité constitutionnel européen, est sans doute l'un des écologistes dont la culture politique résonne le plus avec la mienne. Et après, il dit ceci: ce livre est un bon antidote contre le fatalisme de celles et de ceux que la politique aurait fini par désabuser. En faisant de l'exigence démocratique la substance de la pratique politique, il réhabilite l'idée d'un bien commun à défendre contre les nihilistes corrupteurs et corrompus. Il met également en avant la radicalité du projet démocratique européen en même temps que sa fragilité. Est-ce que vous partagez la vision de votre meilleur ennemi, si je puis dire?
Oui,
Qui
d'abord.
est un grand ami à vous, je crois.
Oui. Donc, non, avec Denis, pendant 5 ans, on a effectivement travaillé ensemble. Et c'est vrai que sur cette idée de la démocratie, de la transparence, de la fragilité du projet européen, je crois qu'on le voit tous les jours. Tous les jours, on voit comment l'Europe peut être menacée, soit sous le poids de ceux qui veulent revenir à leurs frontières nationales, ceux qui parlent de la destruction de l'euro, par exemple, mais aussi tout le poids aujourd'hui de l'incapacité des chefs d'État et de gouvernement d'avoir un projet pour l'Europe. Et donc, moi, je dirais que l'Europe, aujourd'hui, est plus menacée par l'incapacité d'un certain nombre de femmes et d'hommes politiques à avoir un projet pour l'Europe. Ce qui fait que depuis 10 ans, mais ça, ce sont les institutions qui l'ont voulu comme ça, le président de la Commission européenne, qui s'appelle M. Barroso, a complètement annihilé tout projet européen. L'Europe n'a pas bougé pendant 10 ans. On avait vécu vraiment dans la naphtaline avec Barroso. Et j'espère que là, avec la politisation de la Commission, c'est-à-dire le fait que pendant, quand on va voter aux élections européennes pour élire les députés, on va en même temps désigner les candidats pour la présidence de la Commission européenne, ce qui ne s'est jamais passé. Parce que jusqu'à présent, c'était les chefs d'État et de gouvernement qui désignaient le président de la Commission. Et en gros, on promenait le plus petit dénominateur commun, celui qui embêterait le moins les uns et les autres.
Ça n'a pas toujours été le cas quand même, ça.
On a eu un coup de chance, et c'est vraiment la différence. On a eu au moins un Français qui n'était pas comme ça. Hein. Donc c'est vrai que c'était Jacques Delors. Mais depuis, le moins qu'on puisse dire, c'est que les chefs d'État et de gouvernement ont essayé de garder la mainmise. Et donc, si on veut mettre d'accord Mme Merkel, M. Hollande et M. Cameron, eh bien, on se retrouve avec M. Barroso. Et donc, on se retrouve dans une situation où l'Europe, en fait, n'est plus capable de se porter en avant, ni de porter ses valeurs, ni de porter des institutions qui pourraient la transformer.
Alors, on va revenir sur Barroso, parce que, à vous lire, c'est pas simplement qu'un incompétent, hein, c'est aussi un manœuvrier de première qui n'a sans doute pas non plus complètement renié les mauvaises manières apprises quand il était dans les rangs maoïstes portugais.
Oui, hein. Je pense.
D'accord, on est d'accord. Alors, ceci pour dire que, bien préciser que, par rapport au Parlement européen, il y a déjà un certain nombre de candidats, j'allais dire les groupes, ont déjà désigné, hein, préfiguré hein, leur candidature. Alors pour les socialistes, le parti SD au niveau européen, hein, social-démocrate, on sait que c'est Martin Schulz, l'allemand.
Oui, c'est cet après-midi que c'est voté,
c'est ça,
à Rome.
Ouais, d'accord. Et puis, alors vous êtes pressenti, enfin même désigné, avec, vous disiez tout à l'heure, une jeune parlementaire allemande, européenne, pour être ce candidat qui pourrait être présenté comme président de la Commission. C'est bien ça.
C'est ça. Voilà. Donc, les partis européens vont chacun présenter un ou une candidate pour la présidence de la Commission. Donc, pour l'instant, il y a un candidat des sociaux-démocrates, un candidat des libéraux, donc qui est un Belge, un candidat de la droite qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra que le 7 mars.
Du PPE.
Hein, du PPE, enfin, voilà, centre-droit.
Barnier serait sur les rangs.
Alors, je crains que Barnier, qui était sur les rangs, soit aujourd'hui un peu écarté, parce que Barnier dérange. Barnier est trop européen, pour certains. D'accord. Donc, on parle maintenant de l'ancien Premier ministre luxembourgeois, qui a été président Juncker, qui a été président de l'Eurozone. Voilà, c'est moins enthousiasmant. Ensuite, la gauche de la gauche présente un candidat qui est le chef du parti de gauche en Grèce, M. Tsipras. Et donc, les écologistes aussi ont pris leur candidat. Voilà, donc il y aura 5 candidats, a priori, peut-être 6, j'en sais rien, mais pour cette élection du président de la Commission. Ça ne fait pas plaisir au chef d'État, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque d'ores et déjà, le président du Conseil européen, M. Van Rompuy, a décidé d'organiser un repas informel des chefs d'État et de gouvernement 2 jours après l'élection européenne pour parler des désignations. C'est-à-dire que le Parlement n'aurait même pas le temps de se réunir que déjà le Conseil parlerait de nomination. Donc on leur a envoyé un texte un peu saignant, signé par tous les groupes politiques qui présentent des candidats pour dire que c'était inacceptable et que donc que c'est le Parlement qui avait sur cette affaire pour la première fois la capacité de faire une proposition.
Alors, dans le livre, c'est suffisamment rare pour être mentionné. Vous commencez d'ailleurs par un petit mot à votre équipe, vous dites, et vous saluez vos collaborateurs, hein, Michel Dupont, j'ai peut-être mal prononcé le nom, Jean-Marc Desfil.
Oui, ça va bien.
Et puis Anne Lacouture et Benoît Ducasse. Et on les voit d'ailleurs, vos amis, quoi, hein. Vous dites d'ailleurs, ils sont co-députés avec moi, hein. Ça c'est, faut le préciser. On sent une équipe qui est un petit commando, là, hein, vous fonctionnez vraiment en osmose permanente et on voit comment vous travaillez, y compris parfois quand ils reçoivent un certain nombre d'individus, pas forcément aux intentions très claires, à votre place. Je crois qu'il faudrait d'abord peut-être préciser un peu ou définir un peu les fonctions. Vous parlez des commissaires européens. Et vous dites, finalement, un commissaire, il ne prend pas ses décisions à la légère. C'est quelqu'un qui mûrit à chaque fois ses décisions et il les prend avec l'assentiment de ses pairs. Et vous dites ça à propos de John Daly, on va y revenir, qui est ce commissaire maltais à qui va arriver une terrible histoire liée aux manœuvres du lobby du tabac. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Il ne s'agit pas de faire un cours détaillé et complet, mais pour bien rentrer dans la mécanique européenne. Il y a le Conseil, la Commission, le Parlement. Les commissaires, ils sont 27.
28.
28 avec la Croatie depuis le 1er juillet 2013. Alors, comment se répartissent les compétences et les portefeuilles, si je puis dire?
Alors, on ne va pas ennuyer tout le monde avec ça, donc on va essayer d'être très simple. L'Union européenne... Il y a trois institutions qui participent aux prises de décision. Il y a l'exécutif, qui est donc la commission. Et ensuite, il y a ce qu'on pourrait équivaloir au Sénat, qui est le Conseil, qui représente les chefs d'État et de gouvernement, et le Parlement européen, qui serait l'Assemblée, comme on a en France, l'Assemblée nationale. Donc, les commissaires sont nommés par leur gouvernement. Chaque pays nomme un commissaire à chaque législation. Et les chefs d'État et de gouvernement nomment évidemment le principal d'entre eux, le président de la Commission. Les parlementaires, eux, sont élus au suffrage universel. Donc ce sont ces trois institutions qui travaillent ensemble. La Commission est la seule qui a le pouvoir de proposer des lois, ce qu'on appelle des règlements ou des directives au niveau européen. Puis ensuite, ces textes sont présentés au Conseil et présentés au Parlement européen. Depuis le traité de Lisbonne en 2009, le nombre de textes qui est présenté à la fois au Conseil et au Parlement ont été agrandis. Donc ensuite, le Parlement et le Conseil, chacun étudie, mène ses amendements sur le texte. Les textes sont validés d'un côté par l'ensemble des États, de l'autre côté par le Parlement, et une fois que ces validations ont lieu, eh bien, on fait ce qu'on appelle un trilogue, c'est-à-dire que les trois institutions se mettent ensemble, et on reprend ligne par ligne, chacun disant s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Et donc, théoriquement, on doit aboutir à un texte commun, qui est ensuite revalidé par les États et validé par le Parlement européen. Donc ça, c'est l'architecture globale pour aller très vite des modes de décision. À côté de ça, il y a beaucoup d'autres, évidemment, annexes, avec un fait qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire que plus le Parlement européen a de pouvoir, plus la Commission essaye d'en récupérer. Mmh. Et donc, il y a ce qu'on appelle des actes délégués, qui sont en gros les détails sur des décisions. S'ils sont un article, par exemple, j'en prends un parce que ça me vient à l'idée, l'aide aux jeunes agriculteurs dans le cadre de la réforme de la PAC, il n'est pas dit qui c'est qui va toucher l'aide et comment. Et donc, c'est un acte délégué qui le transcrit. Mais en fonction de la façon dont on rédige l'acte délégué, avec la rédaction actuelle dans ce cas précis, aujourd'hui, 70% des jeunes agriculteurs français ne pourraient plus toucher d'aide, ce qui est juste évidemment impossible. Donc, il y a une tentative, et ça, c'est la bataille européenne qui est, à mon avis, intéressante, c'est que plus on arrive à avancer au niveau démocratique d'un côté, plus on voit la structure administrative reprendre ou tenter de reprendre du pouvoir de l'autre. Et donc, quand ce n'est pas la structure administrative de la Commission, c'est le Conseil qui n'apprécie que modérément le fait que le pouvoir, de plus en plus, veuille jouer son rôle en termes de défense des valeurs de démocratie européenne et donc de construction d'une citoyenneté européenne, qui est évidemment la légitimité du Parlement.
Alors, peut-être une première affaire qui est tout à fait significative dans le jeu compliqué à l'intérieur des relations donc entre la Commission, le Parlement, et c'est surtout ça qu'on voit, et puis ces fameux lobbies qui sont des groupes de pression extrêmement nombreux. Vous dites qu'il y en a énormément à Bruxelles. C'est ce que vous nous raconter, c'est l'épisode de John Daly. Alors, peut-être que vous pouvez nous décrire l'histoire à grands traits, je vous laisse raconter, parce qu'elle est savoureuse. Et c'est surtout la manière avec laquelle vous l'analysez qui est très importante, je pense.
Alors, John Daly, donc, la Commission européenne, 28 commissaires, donc chaque pays a un commissaire. Donc, ce n'est pas la taille du pays qui fait qu'on a un commissaire ou un autre. Donc, il y a 28 commissaires. Et donc, Malte a nommé son commissaire. Et ce commissaire a eu la charge de la commission santé et consommation. C'est une commission avec laquelle j'ai pas mal travaillé, puisque c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est santé animale, santé des végétaux, OGM et tous les produits, les colorants, et toutes ces choses-là.
Protection du consommateur.
Protection aussi. Du consommateur et aussi le tabac. Et donc, M. John Daly, avec qui je me suis battu pas mal en début de mandat sur la question des OGM, donc on avait des rencontres régulières, on s'est battu sur la question de l'Agence européenne sanitaire des aliments, peut-être qu'on en reparlera après. Bref, on se connaissait bien, on n'était pas d'accord, évidemment, tout le temps sur tout, mais la discussion a été franche. Et du jour au lendemain, au mois d'octobre 2012, on a appris dans un communiqué qui venait d'être renvoyé de la Commission européenne. Il avait été convoqué par le président de la Commission, 30 minutes d'entretien et viré. Et c'est vrai que tout le monde a été assez étonné et surpris. Et le communiqué officiel de la Commission a été de dire qu'il avait donné lui-même sa démission parce que, effectivement, il avait été pris la main dans le sac. Il était accusé d'avoir demandé 60 millions d'euros pour changer le projet de directive sur le tabac. Et moi, c'est vrai que ça m'a mis... J'étais un peu mal à l'aise avec ça, parce que je l'avais fréquenté quand même pendant 2 ans. C'est un type avec qui je ne partageais pas, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de choses, mais c'était un type honnête.
C'est un homme de droite, hein, Malte, hein, c'est ça.
C'est un homme de droite.
Parti nationaliste.
Parti nationaliste, c'est le parti conservateur maltais. Bon, je me suis dit, c'est pas possible, c'est bizarre cette histoire. Donc, j'ai commencé à mener l'enquête, je l'ai rencontré 2 jours après, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, écoute, c'est bizarre cette histoire, est-ce qu'on peut se voir ? Et là, il me dit, c'est absolument faux, j'ai jamais fait ça, j'ai été accusé à tort, c'est une machination. Bon. Et donc, on commence, nous, à mener l'enquête, et on se rend compte petit à petit qu'effectivement, tout ça est cousu de fil blanc, qu'une plainte a été portée contre lui par l'industrie du tabac auprès de la Commission. La Commission a saisi l'organe de lutte antifraude. Elle a mené une enquête à charge. Et au vu de cette enquête, le président de la Commission l'a foutu dehors.
L'organe en question, l'OLAF, là, c'est, vous dites, il se présente à tort, hein, comme le FBI européen, hein, en fait, une espèce de chevalier blanc destiné à traquer la corruption, c'est ça.
Et voilà, c'est ça. Ouais. Et là, on l'a vu en l'occurrence qu'ils ont fait l'inverse. Donc, c'est une machination tout à fait invraisemblable, une enquête à charge. Donc, il y a des centaines et des centaines de pages qu'on ne voit pas, évidemment, au départ. Le commissaire n'a pas accès aux documents et il est donc viré en 30 minutes et... l'affaire est transmise au parquet de Malte pour qu'il soit jugé. Donc c'est un truc qui est quand même dur. Hein, se faire virer en 30 minutes et accuser de fraude, de corruption, d'avoir voulu soudoyer pour toucher 60 millions d'euros, c'est quand même pas banal. On se rend compte au final, je vous passe tous les épisodes, vous les lirez, qu'en réalité tout ça a été construit dès le début et que la stratégie de Philippe Maurice, puisque c'est Philippe Maurice qui a mené ça, a été... de faire virer ce commissaire pour retarder la prise de décision sur la directive tabac pour pouvoir continuer à gagner de l'argent en rallongeant le temps pendant lequel l'ancienne directive continuerait à exister. Et donc, tous les moyens ont été utilisés. Et le moyen le plus invraisemblable qui a été utilisé, c'est qu'en fait, un ancien fonctionnaire de la Commission qui était responsable des affaires légales, c'est-à-dire un Français qui était en charge de voir la légalité de l'ensemble des textes juridiques qui sortent de la Commission, a pris sa retraite, a été embauché par un cabinet d'affaires anglais basé à Paris. Il a eu comme client immédiatement Philippe Maurice et c'est lui qui a servi de lien avec la directrice générale de la Commission pour dire voilà la plainte que nous venons poser comme ça discrètement quoi hein. Votre commissaire est louche, il est en train de magouiller. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Le plus incroyable, c'est que ce monsieur qui s'appelle Michel Petit, puisqu'on donne son nom, a été remercié par monsieur Barroso quelques semaines après et il est devenu le responsable de la commission de déontologie de la Commission européenne. Il a fallu qu'on l'attaque devant les instances européennes pour qu'au mois de décembre, donc il y a quelques mois, il soit foutu à la porte. Et M. Barroso, voyant que c'était quand même un peu trop dur, un peu trop criant, a accepté de le limoger.
Alors, vous citez le cas de Michel Petit, mais il y en a d'autres. Et en particulier, on voit apparaître un phénomène alors, très peu connu du grand public, qui s'appelle les revolving doors, hein, donc les portes tournantes. Hein. Alors, ce n'est pas le pantouflage à la française, hein, c'est un peu plutôt le spoil system à l'américaine, avec des types qui rentrent, qui sortent en fonction des systèmes. Alors, expliquez-nous ce que c'est, parce que ce sont des hauts fonctionnaires, en fait, qui vont... vendre leurs connaissances de l'intérieur de la machine à des groupes privés, entre autres.
Voilà, donc en fait, on a des hauts fonctionnaires qui sont en poste à la Commission européenne, donc à différents niveaux, et qui, une fois passés 20 ans, 25 ans au service de la Commission, sont embauchés par une entreprise ou une autre pour pouvoir porter le message et surtout servir de lien. Comme ils ont un calendrier de tous les rouages, eh bien, à partir du moment où ils travaillent pour l'industrie, c'est plus facile de faire remonter les dossiers et de faire pression. Donc, on a vu ça dans énormément de domaines. Sur le médicament, c'est connu, même si moi, je n'en traite pas. Sur les gaz de schiste, on a vu ça de manière tout à fait invraisemblable, comment la commission était infiltrée. Et puis, on a le phénomène inverse, c'est-à-dire des gens qui sont partis du lobby industriel et qui s'infiltrent dans les rouages de l'Europe. Et on a vu ça notamment pour l'Agence européenne sanitaire des aliments dont je parlais tout à l'heure, l'EFSA en anglais, où la présidente de cet organisme qu'on est arrivé à débusquer était membre du conseil d'administration du plus gros lobby mondial.
Une hongroise qui s'appelle Ritani.
Non, qui s'appelle Madame Banati.
Banati, excusez-moi.
Banati, et qui a triché sur... sa feuille d'intérêt. Quand on est rentre dans l'administration, on doit avoir, si on a des conflits d'intérêts, on doit remplir un document. Elle a évidemment triché sur cette feuille. Pendant 5 ans, elle a été présidente de l'EFSA et en réalité, elle était là comme représentante du plus gros lobby.
Qui s'appelle l'ILSI.
Qui s'appelle l'ILSI, donc que personne ne connaît. Mais ce sont eux, par exemple, dont les normes, l'ILSI, cet organisme, sert de standard pour analyser les demandes de nouveaux OGM au niveau européen. Ce qui fait que quand Monsanto demande un nouvel OGM, c'est analysé à partir des documents de Monsanto lui-même. En général, comme ça, ça ne peut pas se tromper, quoi. On est toujours sûr de gagner à tous les coups. Mais c'est compliqué de voir. Il faut remonter jusqu'en haut parce que ça paraît tellement invraisemblable qu'on a du mal à l'imaginer. Et donc là, j'avais été voir justement dans ce cas-là M. Dali quand il était encore commissaire. Et je lui avais apporté le dossier sur la table. Je lui ai dit, écoutez, je vous laisse 2 mois pour régler l'affaire, sinon je suis obligé de la rendre publique. Et pendant 2 mois, il n'a rien fait. Donc j'avais été obligé de faire une conférence de presse. Et à la fin, le Parlement européen a été obligé de refuser de donner le quitus à l'agence. Ce qui fait que si on l'avait fait 2 fois de suite, il n'y avait plus d'argent pour l'agence. L'agence était terminée. Et donc l'agence est arrivée à contraindre Mme Banati de démissionner. Le lendemain même, elle était nommée directrice générale du lobby.
Et si donc, vous allez sur le site de l'ILSI, moi, par curiosité, je suis allé en lisant votre livre, Madame Diana Banati a bien sa photo comme le chef exécutif du président de la présidence de la branche Europe.
La branche Europe, voilà. Tout à fait.
Ce qui explique, alors, vous voyez, à travers l'échange qu'on a, le premier échange, que quand on parle d'enquête policière, il faut que vous remontiez finalement vous-même, avec votre équipe, un peu les différents ressorts. Alors, à propos de Malte, quand même, fait de ce commissaire maltais qui est remercié comme ça, quasiment congédié, quoi, en une demi-heure.
On peut dire qu'il est viré, oui, ouais, c'est clairement.
Vous dites, vous avez cette phrase qui est tout à fait intéressante, vous dites, en effet, peut-on imaginer qu'un commissaire allemand ou français aurait été viré de la même manière, hein, c'est page 82 du livre. Bien sûr que non, sinon cela aurait provoqué un tollé. Comme député, on revient à votre mandat de député, nous ne pouvons accepter que l'Europe fonctionne de cette façon, c'est pourquoi nous plaidons pour la transparence. Alors, de l'intérieur, et avec votre expérience, vous connaissiez déjà avant, vous avez été un grand syndicaliste agricole à l'échelon européen, hein, mais de l'intérieur, est-ce que vous avez confirmé qu'il y a en fait plusieurs poids et plusieurs mesures, même pas 2 poids, 2 mesures, mais plusieurs, entre les grands États, ce qu'on appelle un peu les grands contributeurs, et puis les plus petits sur lesquels assez facilement on peut s'essuyer les pieds?
Je pense que c'est assez évident. Je pense que quand on est à la tête de la France, de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne, on a plus de poids et on est mieux considéré que si on est commissaire maltais ou chypriote. Donc ça paraît évident. Et que donc, même, je dirais, roumain, il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, c'est vrai que ça vient à la fois au sein du Conseil, mais aussi De la Commission, au niveau du Conseil.
Et au Parlement, pardon. Est-ce que les groupes nationaux pèsent ?
Alors, les groupes nationaux, le problème qu'on a au Parlement européen, c'est que le nombre de députés est lié, oui, évidemment, au nombre d'habitants du pays. Donc, il y a un minimum de 6 députés européens par pays, quel que soit le nombre d'habitants. Et ensuite, c'est proportionnel au nombre. Donc, aujourd'hui, le pays qui a le plus de députés, c'est l'Allemagne. Ce qui est logique, puisque c'est là où il y a le plus d'habitants. Et donc, c'est proportionnel au nombre d'habitants. Donc là, ça, c'est une répartition, évidemment, à peu près correcte. C'est vrai qu'après, le poids, évidemment, est différent par rapport à un petit pays. Un pays qui a que 6 députés, c'est plus difficile de se faire entendre. Encore qu'il y a des petits pays dont les députés sont reconnus comme étant importants et faisant un travail très important. Donc, ce n'est pas au Parlement que ça joue. Mais évidemment, au sein du Conseil, c'est un poids considérable parce que tous les pays n'ont même pas la même administration, mmh, le même poids. Donc, quand des décisions sont prises, c'est très difficile de faire en sorte. Et donc, il y a beaucoup de pays, et ça, ce sont des indiscrétions de gens qui travaillent au Conseil qui me l'ont dit, on se retrouve parfois avec des premiers ministres qui ne comprennent pas l'anglais. Et comme il n'y a pas de traduction simultanée au Conseil, c'est un peu compliqué. Oui, pour pas qu'il y ait des oreilles indiscrètes. C'est pour ça que moi, je plaide pour la transparence et qu'on puisse voir les débats du Conseil. C'est tout à fait anormal que le Conseil ne soit pas filmé, que les élus, que les citoyens ne puissent pas savoir qu'est-ce qui est décidé à un ordre du jour défini du Conseil, pour savoir d'abord si les chefs d'État de gouvernement respectent les décisions de leur pays. Déjà, ce qui serait bien, et ça c'est quelque chose qu'on voit, la différence par exemple entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, quand Mme Merkel va à une réunion du Conseil, avant elle a été obligée de demander l'autorisation sur chaque thème au Parlement allemand. Et donc, elle a un mandat de discussion, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Sous aucun gouvernement français, on a vu le Premier ministre venir devant le Parlement et obtenir le feu vert du Parlement pour dire « voilà nos lignes rouges, voilà ce qu'on veut négocier, etc. » Et donc, on se retrouve dans des situations très différentes. Ce qui fait que c'est assez facile et ce qui fait qu'on explique assez facilement qu'en France, droite et gauche confondues, chaque fois que quelque chose va mal, c'est toujours la faute à Bruxelles. Mais comme on ne sait pas ce qui a été raconté à l'intérieur du Conseil, la plupart du temps, les gens ne le savent pas, ils prennent pour argent comptant ce qui se dit par le chef d'État ou de gouvernement. Et donc là, c'est une situation. Donc ce serait assez simple de régler cette affaire si on mettait sur la table et si ces débats étaient retransmis de manière tout à fait transparente.
Alors,
parce qu'au Parlement, c'est comme ça. Tous les débats, y compris en commission, sont filmés.
Oui, mais alors, vous avez raison, vous opposez l'opacité du Conseil à la transparence, entre guillemets, du Parlement, mais en vous lisant, on a l'impression que la transparence du Parlement, elle n'est quand même pas totale et absolue.
Ah, mais non, la démocratie n'est jamais parfaite, donc il faut toujours avancer.
Entre autres, parce que on comprend bien en vous lisant, ce que l'on sait par ailleurs, c'est une forme de coalition assez permanente entre le PPE et les sociaux-démocrates, hein, les deux grands partis qui d'ailleurs se refilent le témoin à mi-mandat pour la présidence. Hein. C'est comme ça que Martin Schulz est président actuel. Alors à un moment, il y a pas 78, vous évoquez d'ailleurs le rôle de Martin Schulz et des présidents des partis conservateurs dans le fait qu'ils ont refusé la création d'une commission d'enquête spéciale sur le Dalligate, réclamé par les députés verts et les députés de la gauche unie européenne. Et vous dites ceci, une telle opacité, une telle résistance à l'exercice de contrôle démocratique du Parlement laisse planer tous les fantasmes de compromission et du tout pourri, ce qui fait le jeu des populismes de droite et de gauche. Alors, là, une petite précision, page suivante. Bon, il y avait ce fameux amendement 27 qui était destiné à faire cette commission d'enquête. Et on constate, et vous nous dites, les pourfendeurs de l'opacité comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont abstenus sur cet amendement.
Voilà.
Pas très gentil, non, de cafeter comme ça.
Mais non, les votes sont publics, donc n'importe qui peut aller voir.
Un site internet s'appelle Vote Watch.
Vote Watch, et donc tout le monde peut aller voir les votes de ces députés européens. Et on peut remonter pendant l'ensemble de
C'est pas simple à regarder, hein, mais moi j'ai voulu regarder le détail, il faut avoir l'habitude, hein, parce que
on sait le faire.
Ah oui, tout à fait.
Et ça existe. Donc effectivement.
Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc vous dites en fait qu'il y a une forme de coalition des deux grands partis qui finalement sont assez constamment en train de faire des renvois d'ascenseurs.
Il y a une forme de conformisme mou.
D'accord.
Ouais. J'appellerais ça comme ça. C'est-à-dire, en gros, moins ça bouge, mieux c'est. Et comme il n'y a pas de majorité...
Pardon, c'est la phrase de Lampedusa, pourvu que tout bouge pour que rien ne change.
Exactement. Et donc, on est un peu dans cette situation-là. On se répartit la présidence du Parlement européen, comme le Parlement européen est élu pour 5 ans, 2 ans et demi pour les conservateurs, 2 ans et demi pour les sociaux-démocrates. Et comme ça, tout le monde est content et on ne s'embête pas. Le problème, c'est que si c'était que ça, ce ne serait pas très gênant. Mais ça a évidemment des incidences sur beaucoup d'autres débats. Et le principal débat sur lequel ça a eu une incidence, c'est sur le vote du budget. Puisqu'on a voté le budget, ça au moins s'est passé un peu dans la presse, il y a eu tout un débat. Et pour la première fois, le budget européen est en baisse. Le budget européen est vraiment en baisse de manière significative. Le Parlement, lui, avait voté une proposition de budget en hausse de 5%. La Commission était entre les deux. Eh bien, malheureusement, le Parlement, avec cette majorité conservateur-sociodémocrate, a accepté, sous la pression des chefs d'État et de gouvernement de leurs deux pays, de leurs différents pays, d'accepter la proposition du Conseil. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que si on reste dans ces logiques de consensus mou, en fait, c'est la démocratie qui pâtit, le Parlement qui est délégitimé, et c'est évidemment, une fois de plus, les chefs d'État et de gouvernement qui se ressortent à décider seuls de la politique européenne. Et je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on fera aller les gens aux urnes. Et donc, je crois que ça a été effectivement un des grands ratés de ce quinquennat au Parlement européen.
Alors, autre point que vous soulevez ou que vous identifiez clairement, c'est ce que vous appelez l'apparition de l'armée des experts, avec une belle formule, là encore, que je me permets de lire, hein. Expert des statistiques, expert de la pédagogie des statistiques auprès des acteurs politiques, expert scientifique à la demande, expert en communication de l'expertise. Nous sommes en présence d'une armée d'un genre nouveau, l'armée des équations, où chaque chose est à sa place, chacun est dans son rôle. Alors, dans la même page, vous faites une référence à celui dont j'ai été le dernier assistant avant qu'il prenne sa retraite, Jacques Ellul, donc avec l'évocation de la technique ou l'enjeu du siècle. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas consubstantiel à ce genre de grande organisation, cette armée des experts qui sont, soi-disant, pour éclairer la décision? On sait que ça se développe dans tous les États membres, hein, dans toutes les administrations. Hein, il suffit d'être fonctionnaire pour s'en rendre compte. À l'échelon européen, c'est presque inévitable, non?
Alors, qu'il y ait des gens qui facilitent le travail, qui le rationalisent, il y a, par exemple, je dis, un député seul ne peut rien faire, et c'est pour ça qu'on travaille à plusieurs. D'ailleurs, il y a une différence. En France, enfin, en Europe, un député européen a le droit à 2 assistants à plein temps, et un au niveau de Bruxelles, et un assistant dans la circonscription. Aux États-Unis, un député au Congrès, ce qui est équivalent au Parlement européen, a le droit à plusieurs dizaines d'assistants.
Ça faudra l'expliquer aux Français qui sont des populistes antiparlementaires de crasse. D'accord.
Et ça, c'est quand même une situation étonnante. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte aux États-Unis, c'est pas avec 2 assistants qu'on peut couvrir un territoire et poser des problèmes. Donc je crois que là aussi, c'est important. Mais quand je dénonce ça, je dénonce cette logique très technicienne, comme dirait Jacques Ellul, où la logique de l'expertise, donc de l'efficacité, il faut la solution la plus efficace pour répondre le plus vite. Et donc, à partir de là, on a un mode de pensée très particulier qui fait qu'on évacue toute autre considération et que la décision n'est plus politique, elle ne vient que technique. D'accord. Et donc, il n'y a pas d'autre choix.
C'est-à-dire qu'on substitue une rationalité politique, une raison politique, à une raison technique.
Exactement. Et donc, en France, pour faire le parallèle, parce que ce n'est pas qu'un problème européen, on a ça dans tous les ministères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est nommé ministre, si demain je me retrouve ministre, je ne pourrais pas choisir mon cabinet. Parce que si tu choisis ton cabinet, tu te retrouves à prendre des gens qui tu as confiance et qui peuvent pousser les dossiers. Et le Premier ministre va venir t'expliquer, quelle que soit sa couleur politique, que non, il faut quelqu'un qui sort de l'ENA, puis quelqu'un de Polytechnique, puis de Centrale, parce que comme la majorité des réunions sont interministérielles, il faut savoir si, au niveau administratif, les décisions et les propositions vont caler. Vont se caler les unes par rapport aux autres. Et donc, c'est cette logique administrative qui prend le dessus. Et à partir de là, eh bien, on voit des modes de décision qui sont complètement déconnectés de la pensée politique. Et un des organismes centraux aujourd'hui de cette pensée unique, c'est l'OCDE, qui est donc l'organisation des pays les plus riches, où cette pensée technicienne a pris le dessus. Et c'est ce que je découvre et que je dévoile dans le livre, c'est que sur la question de l'agriculture, eh bien, dès 1982, on a théorisé à l'OCDE la sortie de l'agriculture faite pour nourrir les gens et on est passé à l'agriculture faite pour nourrir les marchés. Mmh. Et c'est dès 1982 que c'est écrit noir sur blanc. Et on ne peut pas comprendre toute la réforme de la PAC des années 80, 90, 2000, ainsi que la naissance de l'Organisation mondiale du commerce, si on n'a pas ces éléments. Et on voit comment se structure la pensée. Et ça, je crois que c'est très important si on veut réhabiliter, redonner du sens à la politique.
À propos de donner du sens à la politique, on sent que vous vivez des choses qui vous touchent, même très, très personnellement, à ce fameux vote que vous perdez à deux voix, 334 contre 332. Hein, vous y croyez, vous avez même négocié avec l'OFOL sur le plafonnement à 200 000 euros. Je suis pas technicien, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est le plafonnement des aides aux agriculteurs à 200 000 euros. Hein. Vous vous battez là-dessus, vous dites finalement il ne faut pas que 80% de la PAC bénéficie à 20% des aides, bénéficie à 20% des agriculteurs européens. Et puis vous allez jusqu'au vote, alors il y a une kyrielle d'amendements. Quand on sait comment ça fonctionne, ça va très très vite. Hein. C'est une espèce de balai permanent. Et puis vous perdez deux voix. Et vous dites deux voix, j'ai un petit passage à vide, la gorge serrée, j'ai encore deux heures de vote à assurer. Et puis alors après, l'analyse, alors là, en termes de sciences politiques, moi j'ai savouré parce que le détail sur les votes est tout à fait essentiel. Hein, le détail des votes. Et la question que je voulais vous poser, c'est comment expliquez-vous le vote des 5 députés communistes d'Outre-Rhin ? 4 contre et 1 pour votre amendement de plafonnement. Et puis également les Français, 66 députés sur 74 qui ont pris part au vote, 90% pour votre amendement, hein, l'amendement Beauvais, pour le plafonnement. Et puis les quelques contre, Joseph Daul, vice-président du Parti populaire européen, ancien vice-président de la FNSEA, et puis Marine Le Pen. Elle est absente ce jour-là, mais Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch, soi-disant défenseurs des petits agriculteurs, qui
votent contre le plafonnement. Voilà. Voilà. Ouais, ouais.
Tout ça, c'est absolument pas connu, enfin, on le sait pas.
Mais... C'est pour ça que c'est écrit. Hein.
Oui, et c'est pour ça que c'est vraiment passionnant. Est-ce que vous avez l'impression que vous réussissez à faire passer des choses, ou est-ce que vous, pardonnez-moi la trivialité du propos, ou est-ce que vous prenez plutôt que des baffes
Alors non, parce que là, c'est vrai que c'est invraisemblable qu'on soit... Bon, c'est dommage qu'on ait perdu ce vote, mais en même temps, les choses ont déjà énormément avancé. C'est-à-dire que pour la première fois au niveau européen, c'est plus tabou de parler de plafonnement des aides. Parce que comme syndicaliste, c'est une bataille, moi, que j'ai menée depuis 30 ans. De dire, il est anormal que plus on a d'hectares, plus on se touche d'aides, et qu'il n'y ait aucun plafond à la distribution de ces aides. Donc c'est quand même quelque chose de quand même invraisemblable. Donc on est arrivé à mener un débat sur lequel on est arrivé à avoir la moitié du Parlement qui a repris cette revendication, qui est une revendication de base qu'on a portée tellement longtemps. Ouais. Et donc, c'est quand même formidable. Ouais. Et après, on se rend compte, évidemment, qu'il y a des intérêts. Si, par exemple, les communistes de l'Est, d'Allemagne de l'Est, votent contre nous, c'est qu'en fait, les énormes fermes industrielles de l'Est qui sont reprises sur les anciens kolkhozes privatisés, eh bien, effectivement, ils sont toujours dans cette logique-là de modèle agricole. Et plus c'est gros, mieux c'est. Et donc, il n'y a pas de différence ensuite idéologique entre ce rêve technocrate industriel d'agriculture à la soviétique ou de l'agriculture industrielle libérale, mais qui est sur le même modèle. C'est la même agriculture industrielle. Donc voilà. Mais on a perdu effectivement ce vote de deux voix. Pour autant, on est arrivé dans le cadre de la réforme à imposer que les pays qui voudront mettre en place des dégressivités des aides pourront le faire. Donc j'espère qu'au niveau français... on ira jusqu'au bout de la procédure. C'est un peu compliqué, parce que là aussi, il y a énormément de pression du lobby de la FNSEA qui a du mal à accepter qu'on puisse plafonner les aides. Et quand je vois les surfaces de maïs irriguées dans les Landes, je pense que ce n'est pas simplement dans le bassin parisien qu'il y a un certain nombre de blocages. On en trouve aussi ailleurs. Peut-être quand même un dernier point sur ce qui est en train de se passer. Parce que je crois que l'avant-dernier chapitre, avant les propositions, et je crois que c'est important de bien comprendre que tout ce dont je parle, qui sont des points chaque fois précis, avec des lobbies qui passent plutôt par en dessous, Et donc, en fait, c'est plutôt des ripoux, on va dire. Hein, on va dire ça clairement comme ça. C'est effectivement des vrais problèmes. Mais le grand problème d'aujourd'hui, c'est que ce poids des entreprises devient beaucoup plus important et est porté non pas maintenant par des lobbies, des intérêts particuliers, chacun qui veut défendre sa petite réforme, mais surtout par les négociations commerciales qui sont en train de se mettre à l'œuvre de plus en plus, ce qu'on appelle les accords bilatéraux, et notamment avec le Canada et avec les États-Unis. Il y a un grand projet actuellement d'accord de libre-échange Europe-États-Unis et qui, au-delà des questions classiques de barrières tarifaires et tout ça, qui ne sont pas vraiment le problème là-dedans, pour la première fois dans un accord de ce type-là, il est écrit noir sur blanc que les entreprises pourront attaquer les États si la législation des États va contre l'intérêt de leurs entreprises. C'est-à-dire que si une loi sur la santé, sur l'environnement, sur les normes sociales risque de mettre en péril les bénéfices des actionnaires, l'entreprise attaquera et ça sera discuté dans le cadre d'un, alors c'est même pas un tribunal, d'un, on va appeler ça tribunal pour la simplification, mais d'un tribunal arbitral entre trois personnes en dehors du droit. Et ce sera uniquement une négociation. Et donc ça, c'est un bouleversement total. Parce que si ça, ça se met en place, il n'y a plus besoin ni d'aller voter, ni de faire des lois, ni rien. C'est-à-dire que ce sont les intérêts des entreprises qui décident. Il y a actuellement 450 procès à travers le monde. Ce n'est même pas des procès, puisque ce sont pas, c'est pas fondé sur le droit, c'est fondé uniquement sur les actes commerciaux et sur les échanges commerciaux. Et donc, c'est un vrai danger. Et il y a une entreprise française qui est actuellement en discussion arbitrale avec l'Égypte, qui a attaqué le gouvernement égyptien, donc c'est Veolia, pour ne pas la nommer, qui fait l'assainissement de l'eau à Alexandrie et qui vient d'attaquer l'Égypte, qui a mis en place un salaire minimum. Et donc le salaire minimum va à l'encontre, évidemment, diminue les bénéfices. On a une entreprise pétrolière des États-Unis qui vient d'attaquer l'Ottawa, donc le Canada, parce que depuis qu'il y a eu des élections au Québec, la fracturation hydraulique a été interdite au Québec. Et donc ça va contre leurs intérêts, ils demandent X centaines de millions d'indemnités à cause de ça. Donc on est dans un processus, si cela se développe, c'est-à-dire que si ça se met en place de manière institutionnelle dans des accords, c'est effectivement un vrai problème par rapport à la démocratie. Donc pour moi, un des grands enjeux des années à venir, il est là. Il y a eu un échec flagrant du multilétarisme commercial avec l'échec de l'OMC, pour des raisons à la fois internes et externes.
Entre autres sur le Maroc.
Ça, c'est voilà, vraiment... mais ça c'est les accords de libre-échange. Donc on a eu l'échec du multilatéralisme. Pascal Lamy, pendant 8 ans, n'a pas fait bouger les lignes par rapport à l'OMC pour la réformer. Et donc, c'est un échec. Eh bien, les entreprises ont décidé de passer à côté, de passer par la fenêtre avec le développement, en poussant les gouvernements à signer des accords de ce type-là. Et le vrai problème, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de gouvernements ne se rendent pas compte de ce qui se discute. Et moi, j'ai discuté aussi bien, j'ai discuté il y a 2 mois de ça avec la ministre du Commerce extérieur, Madame Nicole Bric. La veille, elle avait une réunion avec la Commission européenne. On leur avait discuté des documents, elle n'avait pas compris ce qu'il y avait dedans. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez lu cet article ? Elle me dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, si, demain, le bœuf aux hormones revient. Elle me dit, c'est pas possible. Donc on s'est attrapé méchamment. Et l'après-midi même, son cabinet a rappelé chez moi, à Bruxelles, au bureau, et pour qu'on leur envoie les documents attestant des éléments qu'on avait. Donc on l'a fait. Et il y a 2 jours, c'est la même discussion que je l'ai eue avec le ministre des Affaires européennes, M. Repentin, qui me dit, oui, alors sur l'accord avec les États-Unis, on a des lignes rouges. Donc il me cite 2-3 points, très bien. Mais j'ai dit, vous avez juste oublié le principal. Il me dit, ah bon, vous croyez que c'est important et c'est, non, mais c'est très singulier. Et là, je me dis qu'il y a une déconnexion. C'est-à-dire que la structure mentale est complètement... les gens ne voient plus de la pensée globale.
En tous les cas, en faisant
plus de réflexion globale.
En faisant ça, vous faites exactement l'inverse de ce que vous dénoncez dans votre livre, page 111, à propos de ce dialogue que vous avez avec Sandra Calmiété, qui est la députée lettonne. Vous dites, nous sommes là au cœur d'un problème rarement abordé. Vous allez voir, je dis au public, la pression nationale sur les députés européens. Je trouve inadmissible que les députés européens se fassent le relais des intérêts de leur gouvernement au sein du Parlement. Nous ne sommes pas élus pour ça. Il s'agit d'une forme de lobbying dont on ne parle jamais et qui, selon moi, est destructrice de l'idée européenne. Alors là, vous venez de nous dire à l'instant que vous avez fait le schéma inverse, parce que c'est vous qui portez finalement des thématiques, on va dire, européennes auprès de gouvernements nationaux.
J'essaye d'expliquer. C'est ce qu'on a fait et ce qu'on essaye de faire tous, c'est que pour espérer qu'au sein du Conseil, il y ait une prise en compte de ce débat. Parce que c'est l'intérêt général. Moi, je dois expliquer, c'est pas tant la France que tel pays ou tel pays, c'est la réalité de la démocratie qui est menacée. Quelle est la possibilité de faire du droit si une fois que des élections ont lieu, c'est-à-dire que cet accord est signé demain, le gouvernement change, il y a une alternance, peu importe le type de gouvernement qu'il y a demain, ils prennent la décision, par exemple, définitivement d'interdire les OGM. Eh bien, une compagnie comme Monsanto pourra attaquer le gouvernement français en disant « Il y a 3 millions d'hectares de maïs semés en France, donc pour moi, le manque à gagner, il est temps. Donc, je vous attaque. » Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passerait.
Alors, c'est d'autant plus possible qu'on a une renationalisation de la PAC.
Oui, mais c'est moins cela que là, effectivement, ça, c'est en termes de politique agricole. Mais c'est le grand risque qu'on a, c'est qu'il n'y a plus d'alternance possible. C'est-à-dire que le droit se retrouve figé à un moment donné, toute évolution. Notre exemple, la Pologne. Si demain, la Pologne, aujourd'hui, c'est M. Tusk, le Premier ministre,
un libéral
acharné pour le gaz de schiste, malgré ces paysans qui campent dans les villages.
Malgré le fait qu'il n'y a pas tant de gaz de schiste que ça.
Il y en a pas tant que ça. Et deux, les gens n'en veulent pas. Mais bon, ce n'est pas grave, ils continuent à rouler. Demain, l'accord est signé. Suite à ça, il y a un nouveau gouvernement qui est nommé en Pologne et qui interdit le gaz de schiste. Eh bien, les compagnies attaqueront la nouvelle législation. Donc, il n'y a pas d'évolution du droit possible. C'est fini.
Ce qu'on appelle le one-way ticket en anglais.
Voilà.
Allez, simple. Merci, José Bové. C'est vraiment passionnant. Je vous recommande vraiment la lecture de Hold Up à Bruxelles, hein. Les lobbies au cœur de l'Europe. Ça fait parfois froid dans le dos. Mais enfin, on apprend plein de choses. Voilà. On va s'arrêter là. Je donne juste deux chiffres de comparaison. De 1979, première élection du Parlement européen, suffrage universel, 37% d'abstention. 2009, 57% d'abstention. Donc vous aurez compris que pour 2014, chaque citoyen français, électeur, a intérêt aussi à se mobiliser, n'est-ce pas ?
Donc vous avez juste, si chacun dans la salle, moi c'est ce que je dis chaque fois, mais ça paraît idiot, convertit, explique à chacun qu'il faut que 10 aillent voter et que ces 10 le disent à 10, on a peut-être une chance de bouleverser, de changer l'ordre et que ce ne soit pas une fatalité qu'il y ait encore moins de votants la prochaine fois.
Merci
beaucoup. Donc n'oubliez pas, le 25 mai, vous pouvez aller pêcher, vous pouvez aller à la plage, mais n'oubliez pas d'aller voter. Voilà.
Merci à tous. Et puis maintenant, José Bourget peut dédicacer.